Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC. RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h08, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h30 à midi. Les GG ce matin, Marie Martineau, Marion Bartoli, Julien Beneteau, Simon Dutin. On a déjà évoqué beaucoup de sujets, hein. Les sportifs, les footballeurs qui s'engagent. On a parlé Kylian Mbappé, on a évoqué l'Olympique de Marseille, on a parlé de l'athlé. Et encore beaucoup de choses à vous proposer pour cette nouvelle heure d'émission. Il s'est retiré de Roland-Garros. Il va probablement déclarer forfait pour Wimbledon. L'ère Djoko est-elle terminée? C'est la seconde dans quelques instants. 11h30, le débat caché, les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Et je pense, je suis même sûr que ça va grandement vous intéresser. Je ne vous en dis pas plus. Et puis 11h45, le zapping de l'Euro avec tout ce qui s'est passé hier, mais aussi aujourd'hui, l'entrée en liste de l'Angleterre. Angleterre-Serbie, un match à haut risque. On prendra des infos venues d'Allemagne. Ça, ce sera à 11h45. Un point sur notre fil rouge ce matin. Ce sont les 24 heures du Mans. Morgan Mori, où en est-on?
Il y a un nouveau leader, la Ferrari numéro 50, pilotée par Foucault, devant la Ferrari 83 de Schwarzman et la Toyota de Sébastien Buemi. Le Suisse, l'ancien pilote de Formule 1, est en train de remonter. Il était déçu l'an dernier, battu au dernier moment par les Ferrari. Il est en troisième position. 10 voitures sont dans le même tour dans cette catégorie hypercar. C'est hyper serré alors qu'il reste 4h51. Les 5 premières voitures se tiennent en 10 secondes. Rien n'est joué dans ces 24 heures du Mans. Le trio de tête, les deux Ferrari, la 50 et la 83, devant la Toyota numéro 8 de Sébastien Buemi.
Merci Morgan Mori, à tout à l'heure. Allez, pour débuter cette nouvelle heure, Winston Churchill a dit un jour, ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être...
La fin du commencement.
La fin du commencement.
C'est les grandes gueules du sport, passent la seconde.
L'acceptation. Quand dans la vie tu vis une épreuve, de quelle manière il va falloir faire le deuil? Et puis, c'est quoi en fin de compte le deuil d'une chose? C'est l'acceptation.
C'est incroyable que vous êtes restés. Quelle heure sont 13h matin. Beaucoup de les enfants. Tu dois dormir, mon ami. Qu'est-ce que tu fais ici?
C'est devoir accepter ce qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est que des mots. C'est facile. Le vivre, c'est autre chose.
J'ai pas vu le même joueur, moi. J'ai vu quelqu'un qui se débarrassait de la balle, qui tentait des amortis. On avait l'impression qu'il était ailleurs, qu'il subissait tout ce qui se passait.
Il faut savoir aller au bout de quelque chose quand c'est pas encore fini. Peu importe le domaine. Mais quand quelque chose est terminé, quand il y a le coup de sifflet final, c'est fini.
L'annonce est tombée à 16h48. Lésion au ménisque médial du genou droit pour Novak Djokovic. Roland Garros est en quelque sorte orphelin.
Et celui qui arrivera à passer à autre chose, c'est cette acceptation qu'il aura accomplie.
Sous aucun prétexte, je ne veux.
Okay. Ah, comment te dire adieu? On ne sait pas si Novak Djokovic boit de la Contrex, évidemment. Mais comment te dire adieu? C'est une question que l'on pourrait peut-être bientôt se poser. Il y a 10 jours, Novak Djokovic avait dû renoncer, vous l'avez entendu, à son quart de finale de Roland-Garros à la suite d'une blessure au genou. Quelques jours plus tard, Carlos Alcaraz en avait profité pour prendre le pouvoir. Jamais le Serbe n'a connu une saison aussi galère, qui contraste évidemment avec sa saison 2023. Exceptionnelle, éblouissante, où il avait remporté 3 grands chelems sur 4. À 37 ans, Novak Djokovic, possiblement forfait pour Wimbledon, pourrait traverser une saison blanche, lui, l'homme aux 24 grands chelems. La musique qui fout les jetons et cette question. L'ère Djoko est-elle terminée? Oui ou non? Simon Dutin.
Je le crains, Jean-Christophe.
C'est donc un oui.
Oui.
Marie Martineau.
Mais je suis déçue, je trouve qu'il a du flair d'habitude, notre ami Dutin, mais alors je pense pas du tout.
C'est non.
Non.
Julien Beneteau.
Entre Simon et Marie.
Non, pour répondre, pas une
demi-charmée.
Tu penches plutôt du côté oui ou du côté non?
Pas encore, c'est pas encore la fin de l'...
C'est pas encore la... Oui, bah oui, à 37 ans, ça va bientôt arriver. Merci, bah, Julien. Ah, il entre... Je pense que tu peux le convaincre, Simon. Attaque-toi, Julien. Marion Bartoli, oui ou non?
Non.
Non, ah oui, elle n'aime pas cette
en
question,
fait,
je sais.
Ça dépend comment on définit l'air. Djokovic.
Très bien.
Ça.
Et comment on l'écrit aussi?
Oui,
ça n'a rien à voir. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste tennis, Eric Salio. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Je ne savais pas qui était spécialiste.
Salut Eric. Oui,
moi non plus. Moi non plus. Bon, on retrouve Eric Salio. Voilà, c'est plus simple. Eric, comment va Novak Djokovic?
Ça fait 4 saisons que j'ai envie de le dire, mais j'ose pas.
Comment va Novak?
écoutez, Novak Djokovic semble se rétablir plus vite que le commun des mortels, ça ne va sûrement pas vous surprendre. Il faut dire qu'il n'a pas tardé à accepter l'opération du ménisque du genou droit qu'il avait tant fait souffrir en huitième de finale face à Cerundolo. Le 5 juin, il a fait confiance au professeur Jérôme Etta, un quart d'heure sur le billard pour sauver une saison mal embarquée. Et vendredi dernier, une vidéo sur ses réseaux sociaux montrait qu'il retravaillait dans une salle de gym à Belgrade. Vélo, étirement, flexion, travail d'équilibre, le Serbe met les bouchées doubles. Il est toujours inscrit à Wimbledon, qui débute le 1er juillet. Mais s'il est trop juste pour le gazon anglais, il sera forcément opérationnel pour les Jeux Olympiques où il retrouvera Rafael Nadal qui a programmé le tour de Bostad en Suède pour préparer le deuxième grand rendez-vous sur la terre battue parisienne.
Et on remercie Eric pour toutes ces dernières informations. Vous l'aurez compris, il ne peut pas se défendre le pauvre, hein. C'était enregistré. Il nous avait laissé ce petit bonbon pour les dernières informations sur Novak Djokovic et vous, comme ça, vous arrivez et vous le taillez. Il m'a appelé, il est furieux. Eric, si tu veux, si tu nous écoutes et si tu veux nous appeler, tu as le droit à une réponse. L'ère Djoko est-elle terminée ? Alors pour qu'on s'entende, vu que tu ne comprends pas cette ère Djoko, eh ben moi je vais te la définir comme ça. C'est-à-dire une ère où Djoko, quand il se présente à un tournoi, il est forcément le grandissime favori. Ou quand tu vas sur le tournoi, tu te dis bah, normalement c'est pour Djoko. Est-ce que ça c'est terminé ? Est-ce qu'on va revivre ça ? C'est notre question.
Alors, on peut revivre ça. Grandissime favori, non, parce que les autres ont augmenté le niveau, et notamment Sinner, Alcaraz, de manière énorme. En revanche, au début d'un grand chelem, pour moi, il est toujours dans les deux favoris.
Il y a, donc l'ère Djoko n'est pas terminée.
Voilà. Bah voilà.
Je sais que Marion, je vais te donner la parole, mais pas tout de suite, parce que je sais que tu veux dégoupiller, je sais que tu veux t'attaquer à l'édito de cette émission. Et
exactement.
Il n'y a aucun problème. Mais ouais, d'abord les autres. Marie Martineau, pourquoi non ?
Alors parce que j'ai eu la chance, c'était pas prévu, mais j'ai eu la chance d'assister au match les huitièmes à Roland.
Djoko-Cerundolo.
Voilà. Je devais être sur un night session après, mais on nous a laissé rentrer avant. Et donc en fait, ce match s'est éternisé. Et à ce moment-là, on ne savait pas qu'il avait un ménisque éclaté. On a bien compris qu'il a fait un premier set où il était très en forme. Ça fait 6-1. Et derrière, ça reste un mec d'une pugnacité incroyable. Et tu sens qu'il est blessé et qu'il est en deçà. Et pour autant, il arrive au bout de son match et il gagne son match. Et ça me fait me dire que si, avec un ménisque en moins, il est encore capable quand même de mettre des gros 7-5 et 6-3 à un gars comme Cerundolo, qui n'est pas non plus un peintre, hein. C'est qu'il a encore de belles années devant lui. Et un ménisque, pour être passé par là, on sait tous que ce n'est pas non plus dramatique sur un mec qui, pour l'instant, n'a fait preuve de très peu de pépins physiques. Je veux dire, ce n'est pas Nadal. Il est quand même encore... Ok, il a 37 ans, mais il est quand même très, très en forme.
Ça dépend si c'est le ménisque de l'intérieur ou...
Excellent.
Oui, bien sûr.
Ça, c'était un petit bonbon.
Ça fait quand même beaucoup. Je ne connais pas aussi bien le tennis, évidemment, que mes copains, mais le sport un peu. Et j'ai l'impression qu'on est quand même loin d'être sur une
descente. Oui, et puis en assistant à un événement comme ça, en direct, performance, tu t'es dit, ok, Djoko, je vais pas le crépir ce matin. Simon Dutin.
Moi j'ai dit oui parce que tu m'as obligé, parce que sinon il n'y avait pas de débat.
Lâche les infos, tu as raison.
Non mais me mets pas là-dedans parce que les auditeurs vont le croire. Et en plus ce n'est pas vrai, je n'ai absolument rien dit.
Je précise, c'était une plaisanterie. Non, j'ai pas de boule de cristal et ma première impression au début, oui, je me disais non, c'est pas fini parce que ce qui se passe en ce moment, c'est à une échelle différente, ce qui s'est passé très souvent en tournoi, c'est-à-dire il est mené 2-7-0, un petit tour au vestiaire, et il revient, il est injouable et il s'impose 3-7-2, tu vois.
Bon, comme c'est caricatural.
Il a raté 2-3 tournois d'affilée, un petit tour chez le docteur, et pourquoi pas imaginer qu'il va revenir et rincer tout le monde. Cela étant dit, c'est plus sur le ressenti où tu parlais effectivement du mec grandissime favori au début de chaque tournoi. Là, je rejoins Julien sur l'impression donnée par des mecs comme Sinner, Alcaraz, qui, j'ai l'impression, se sont emparés un peu du manche et assument plus que les mois derniers. Peut-être parce que justement Djoko est plus toujours dans les parages. Ce statut de favori, je rajouterais un Zverev qui a été exceptionnel entre Rome et Roland-Garros. Bon, j'ai l'impression que les mecs ont décidé cette fois-ci de prendre le pouvoir et de plus le regarder, tu vois, en contre-plongée, en se disant bon, voilà.
Qui va aller en finale avec lui, quoi.
Quand est-ce que t'as fini? Quand est-ce que tu nous laisses la place?
J'ai l'impression
qu'ils ont décidé de lui prendre la place. Rajoute à ça le fait que t'as un Nadal qui est en tournée d'adieu, a priori. Oui, je pense que c'est terminé. En tout cas, des saisons comme il en a fait l'an dernier, c'est terminé et que ça va être un petit peu plus compliqué pour lui de dominer la génération qui pousse derrière.
Et un peu plus disputé. Marion Bartoli, vas-y, on t'écoute.
Alors, je ne suis pas du tout d'accord, mais ça vous l'aurez compris. Pour moi, sur Novak Djokovic, ce qui s'est passé en début d'année, c'est qu'il n'arrivait plus à trouver la motivation pour se relancer sur une saison où il allait mettre 3-4 grands chelems à tout le monde, parce que, comme le sait très bien Julien, ce qu'il a drivé pendant toutes ces années, c'est d'être devant Roger et d'être devant Rafa, et que finalement, quand il a obtenu ça, c'est extrêmement compliqué derrière de trouver à nouveau la motivation pour aller mettre l'intensité complète tous les jours à l'entraînement. Et malgré ça, il fait quand même demi-finale l'Open d'Australie, alors qu'il est à 50% de son niveau, il le sait très bien, il est quand même en demi, donc il a une marge sur les autres à partir du moment où il est en mode tournoi du Grand Chelem, qui est extrêmement importante. Et là où Marie a complètement raison, c'est que sur Cerundolo, mais même pas que sur Cerundolo, sur Musetti, quand il va chercher ce fameux match à 3h30 du matin, ou quand on se retourne sur le Roland-Garros qui vient de se terminer, les deux choses que je pense nous restent en tête, enfin les trois, c'est le match de Rafa contre Zverev au premier tour qui a lancé le tournoi, c'est le match Djokovic qu'à 3h30 du matin, et c'est la finale homme. Et ce match jusqu'à 3h30 du matin, quand on regarde avec le peu d'entraînement qu'il a eu avant de venir sur Roland-Garros, le peu de tournois, le peu de points de repère, le niveau qu'il est encore capable d'avoir quand il le veut vraiment, c'est-à-dire que la motivation pour lui est à son point le plus culminant, il lui reste plus quoi sur les motivations? Aller chercher le record de Margaret Court? Il lui reste un grand chelem? Le nombre de matchs remportés par Roger Federer dans un tournoi du Grand Chelem qui était à 369, il vient de le battre puisqu'il a eu 370 victoires grâce à son Roland-Garros. Donc ce qui le motive le plus maintenant, c'est quoi? C'est la médaille d'or aux Jeux Olympiques en simple et c'est le tournoi du Grand Chelem. Et on voit très bien que c'est un autre joueur à partir du moment où il rentre en configuration de tournoi du Grand Chelem et qu'il lui reste, encore une fois et toujours, quand il est à 100% physiquement, une marche sur les autres.
Oui, mais Marion...
Alors ça n'a pas été le cas sur l'Open d'Australie parce qu'il a eu du mal à se relancer psychologiquement. Donc c'était dur pour lui de faire une préparation hivernale. Il a fini extrêmement tard avec la Coupe Davis qu'il a amené jusqu'à fin décembre. Donc finalement, sa préparation, il n'a quasiment pas eu parce qu'il n'a eu que 2 semaines pour se préparer à l'Open d'Australie. Et c'est un joueur, que vous l'avez rappelé, qui a 37 ans. Aujourd'hui, le kiné qui lui fait sa rééducation en Serbie, c'est quelqu'un que je connais très bien, c'est un ancien kiné de l'OM qui s'appelle Jean-Georges Chélier, qui a une immense expérience. Lui, en tout cas, les infos en interne qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il joue Wimbledon qu'il ne le joue pas. Et ça, je peux vous le dire aujourd'hui. Donc,
ce qui serait fou,
arrêtez,
hein, déjà.
Mais arrêtez déjà de penser qu'il ne va pas jouer Wimbledon. Personne ne le sait aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de chances qu'il le joue qu'il ne le joue pas. Et s'il se présente à Wimbledon étant à 100% de ses capacités physiques, bien sûr qu'il fera partie des deux favoris, comme l'a dit Julien. Donc, de
même
loin.
Le premier pour moi, sur gazon.
Exactement. De loin, il n'est pas du tout. Mais alors, ce n'est pas du tout la fin de l'ère. Et quand on voit la finale de Roland-Garros entre Carlos Alcaraz et Sacha Zverev, qui sont bien évidemment de très grands champions, mais quand on voit le nombre de fautes directes qu'ils pratiquent encore, les crampes d'Alcaraz et de Sinner en demi-finale, dites-moi le nombre de fois où Djokovic a crampé sur des finales sur Federer ou sur des finales sur Nadal qui ont duré plus de 5 heures. Le nombre de fautes effectuées par ces joueurs-là sur des finales de tournoi du Grand Chelem où le niveau est le plus élevé.
Ouais, non,
pour
mais
l'instant.
C'est pour
mais
ça,
oui.
Moi, là-dessus.
Mais c'est pas
non,
du tout la fin de l'ère de Djokovic, mais pas du tout.
On a bien compris, mais moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Aller voir Julien, peut-être, parce que oui. C'est la motivation est une donnée importante dans l'ère Djoko. Parce que forcément, si t'en as un peu moins, bah, ça reste du haut niveau. Donc, c'est de la mécanique de haute précision.
Oui.
Un peu moins de motivation, et donc un peu moins de préparation.
Mais là, il s'est relancé avec ce Roland-Garros.
Alors,
regarde la motivation qu'il avait sur le terrain. Roland-Garros, c'était un autre joueur.
C'est à lecture
un
aussi,
autre joueur, il était
Julien.
Transfiguré.
Il s'est relancé ou pas? Ou il y a quand même un doute quand même sur sa motivation et ça peut se comprendre quand même.
Non, la motivation, il a les Jeux Olympiques en ligne de mire, forcément, et aller chercher un autre grand chelem, être le seul à être à 25 grands chelems.
Il est fait,
il veut battre tous les records, il sait que par l'aura, entre guillemets, il n'atteindra pas Nadal ou Federer, donc il est obligé par les chiffres de les mettre tous d'accord. Il les a mis tous d'accord, il va continuer à le faire. Les Jeux Olympiques lui manquent à son palmarès par rapport à un Nadal ou un Federer qui a gagné en double. Mais pour moi, si physiquement il est prêt, donc On va voir comment il récupère de cette opération du ménisque. Encore une fois, je me répète, en grand chelem et encore plus à Wimbledon sur gazon, sa science du jeu,
il est favori. Mais bien sûr, sa science du jeu
et sa connaissance et sa constance. Lui,
et sa faculté à se déplacer.
Mais lui, il n'a pas de trous. Alcaraz. Oui. Alors, Sinner, quand il est prêt, il a moins de trous. Mais c'est vrai qu'Alcaraz et Zverev, de temps en temps, dans un match, ils ont des gros.
Il y a plus de doutes sur eux que Marie Martino.
Et alors, une chose dont on n'a pas parlé, et donc, encore une fois, comme j'y étais, j'ai pu en être le témoin, et c'était vraiment impressionnant. Ce dont il a souvent souffert, c'est-à-dire l'amour du public, il s'est passé un truc. Le chat
est poussé à Roland Garros. Il s'est passé un truc à Roland
Garros. Et je pense que ça va le galvaniser. Il était en train de gagner
les cœurs du public, il a fait deux matchs exceptionnels.
Fallait le voir, ça me fout des frissons.
Ouais, il était vraiment en train de gagner. S'il n'avait pas été contraint à l'abandon, enfin au forfait, je pense que le public de Roland,
il pouvait aller en finale.
Et le mais public
était derrière lui.
Mais tu sais, il l'a déclaré lui-même.
Sur ce terrain, fini à 3h du mat, etc. Ça l'a rendu un peu humain.
Marion, rapidement, et Simon aussi. Vas-y.
Non, pour moi.
Non, mais là-dessus, sur le côté.
Non, mais il l'a dit très clairement. Tu sais,
l'amour du public.
Je l'ai interviewé sur le terrain après un de ses matchs précédents, avant le match sur Musetti où il y a eu une interview vraiment hyper sympa. Mais il a toujours été à la recherche de cet amour du public. Et cette année à Roland-Garros, il s'est vraiment passé un truc. À 3h30 du matin, il l'a déclaré en français lui-même. À 2-2 au 4e set, j'avais l'impression de ne plus avoir de solution contre Musetti. Je ne trouvais pas la tactique. Je pensais que j'allais perdre ce match. Et vous m'avez aidé à le remporter. Les gens étaient à fond derrière lui jusqu'à 3h30 du matin. Et beaucoup de personnes sont restées. Il poussait que pour lui. Il y a eu une ambiance de malade. Conte Rundolo, pareil. Et je pense que ce déclic-là va lui permettre complètement de se dire, ben voilà, là j'ai un bloc où il me reste deux grands chelems et les Jeux Olympiques à aller chercher. Et sur les deux grands chelems et les Jeux Olympiques à aller chercher, je veux au moins aller chercher un grand chelem et une médaille au jeu. Et là, il est à fond en mission. Il est complètement en mission et je pense qu'il va le faire.
Ok, en mission et après rideau. Simon, pour finir.
Non, simplement avec, tu sais, l'élégance qui, comme tu le sais, me caractérise souvent. Je tenais à dire que le tennis que je suis a été convaincu par Julien Benneteau et Marion Bartoli. Je doute.
Tu doutes de ta pensée?
Non, oui,
oh non, faut
non mais il était forcé par JC. Qu'il a vraiment été forcé par JC.
Lionel nous appelle au 32-16. Lionel, bonjour.
Salut tout le monde.
Lionel, je t'ai pas forcé. Tu as un avis, je t'ai pas forcé.
Ah, pas du tout. Hein. En plus, je suis très surpris de s'apprendre que ça, que notre cher ami puisse être influençable par le maître de cérémonie. Je pensais pas ça de lui. Quoi. Bon, déjà, c'est un grand privilège. C'est un grand privilège de pouvoir échanger avec Julien et Marion. Si je pouvais, j'appellerais tous les week-ends pour discuter avec Marion, mais pas que tennis. Écoutez, déjà, je pense que vous aimez bien faire le buzz. La seule chose qui va pouvoir décider Djokovic à arrêter, c'est les blessures qu'il ne maîtrise pas. Parce que actuellement, je pense que il y a deux joueurs qui ont. On attendait ça depuis longtemps parce que si on enlève Alcaraz et Sinner, tous les autres, ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Zverev, il a un potentiel exceptionnel, mais malheureusement, mon pari tient toujours. Il ne gagnera jamais un grand chelem. C'était l'année ou jamais. Si au moment, le problème entre Alcaraz et Sinner, c'est que techniquement, ils ont fait exploser mais tout le monde. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore prouvé que quand ils sont dans le dur, ils s'en sortent. Alors Alcaraz l'a fait l'année dernière à Wimbledon, c'est exceptionnel, il a mis 6 mois pour s'en remettre. Sinner, il est le premier surpris d'avoir gagné l'Australie alors que même tout le monde sait qu'il va exploser. Maintenant je pense que si jamais ces gars-là, Sinner, je pense que si le jour où il n'est pas bien, parce que malheureusement sur un terrain de tennis, dans l'année on est plus souvent moins bien que bien. C'est d'ailleurs l'oncle de Nadal qui avait bien dit, la différence entre Federer, Djokovic et Nadal, c'est que même les jours où ils ne mettent pas une balle dans le terrain, mais ils gagnent. Et ça Alcaraz et Sinner, ils ne sont pas encore là. Djokovic, il rentre sur le terrain. Évidemment que sa motivation, bah c'est un homme, hein. Il a des enfants, il a une famille, il bouge toute l'année, la motivation est la même. Tant que Nadal n'arrêtera pas, Djokovic continuera à être là. Et si Djokovic est là, il ne fait pas de la figuration, il va gagner. Donc moi, je ne suis pas du tout un fan de Djokovic. D'ailleurs, quand Marion parle de Novak, on sent le manque d'objectivité, mais bon, je respecte.
C'est moche.
Tant qu'il sera là.
Lionel, t'étais parfait jusqu'à maintenant, mais là, c'est moche que tu viens de dire. Ouais. Là,
moi, franchement, je me suis pas remis de la déchirure de 9 mm et pour gagner l'Australie, ça, j'arrive pas à m'en remettre. Enfin, bref, tant qu'il sera là, la différence, c'est que des mecs comme Nadal et Djokovic, ils peuvent être malmenés tout match. Ils savent que dans 4h, 5h, le niveau d'adverse va baisser et que s'il y a une toute petite chance qu'ils reviennent, eux, ils seront là. Là où des Sinner et Alcaraz sont capables de dégoupiller. Alcaraz, la finale à Roland-Garros, il doit la plier en 3-7 parce qu'à un moment donné, il a le match en main et hop, il la laisse s'échapper. Sinner, dès qu'il est Sinner à Monaco, jamais il doit laisser passer le match contre Tsitsipas. Djokovic, dans la même configuration, Tsitsipas, il peut avoir un arbitre ou quoi que ce soit, mais le match, il le plie. Et je pense que ces deux-là, techniquement, ils vont dominer le tennis sur les 10 prochaines années, je ne doute pas du tout. Mais mentalement, il faut qu'ils le prouvent.
Et ils ne sont pas encore prêts. C'est ce que tu veux nous dire. Merci Lionel, tu es bon pour remplacer Eric Salio. On va t'envoyer un contrat. Merci mon cher Lionel, tu as été très bon en tout cas dans les grandes gueules du sport. Je dois écourter ce débat, les copains, parce que...
Le temps file.
Bah, déjà, ça file, c'est vrai que ça file à une vitesse. Donc il n'y a plus de saison. Hein. C'est fou. Mais surtout parce que c'est l'expérience RMC. Et nous allons
appeler. J'espère que tu es convaincu, j'y sais, de notre expertise en tennis. Est-ce qu'on t'a fait changer d'avis?
Attends, d'abord j'appelle Jawad. Il vient de gagner l'expérience RMC. Jawad, c'est toi?
Oui, c'est moi.
Donc tu sais pourquoi je t'appelle ou pas?
Oui, pour une magnifique nouvelle.
Exactement. Le match de l'équipe de France-Pologne à Dortmund, le troisième match des Bleus le 25 juin prochain. Tu vas vivre l'expérience RMC, c'est arrivé à d'autres, mais tu vas voir, c'est fantastique. Le vol, magnifique. L'hôtel, tu vas rencontrer toutes les stars de notre antenne, notamment Jeannot Rességuier, notre grand commentateur des Bleus. Et puis tu auras deux places pour le match. Jawad, content?
Je suis super content.
Félicitations.
C'est pour moi un très grand jour, c'est magnifique. En plus, je vous écoute tous les jours, le matin, le midi, le soir, les podcasts. J'aime beaucoup vos équipes, Dugarry, Roten, Riolo, Jean Rességuier. Je suis très content. Vous aussi, j'aime toute l'équipe RMC.
Mais j'espère que t'écoutes Bartoli Time surtout, Jawad.
Oui, c'est tous les matins, important. Bartoli Time aussi.
Tu sais quoi?
Voilà.
Bon, on va retirer les places à Jawad. Je blague évidemment, mais tu sais, Riolo, Roten, tout ça, ce sont les remplaçants. Voilà, les
petits
filles sont là dans les grandes clubs du sport.
Voilà.
Merci Jawad d'avoir été avec nous et
merci à vous.
On te souhaite un bon kiff auprès de l'équipe de France.
Profite bien.
Et à bientôt sur RMC. Merci de ta fidélité. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Le débat caché, ça va vous plaire, mais GG. Je sais que vous allez avoir beaucoup de choses à nous dire. À là tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h33 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marion Bartoli, Marie Martineau, Julien Beneteau, Simon Dutin. Dans 10 minutes, le zapping de l'Euro. Oui, c'est une innovation incroyable cette saison pendant cet Euro 2024. Eh bien, je vous donne les dernières informations de l'Euro. Comme quoi, cette émission est extrêmement bien pensée. C'est produit par des Américains.
Bien sûr.
Ouais. Sachez que pendant le Tour de France, on parlera du Tour.
C'est beau.
Et il y aura peut-être une séquence sur le Tour. N'en dis pas plus.
Alors là,
et peut-être que pendant les
gyres. On est choqué.
Pardon. Ah mais c'est pensé tout ça. Attendez, c'est réfléchi. Hein. Des années d'études. Hein. Bon vite, bref. 11h33. Bah oui, parce que c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Vous ne savez rien. Vous êtes dans le noir, comme dirait Christian Clavier dans. Je suis dans le chart, totalement. Vous ne savez rien, mais vous allez devoir réagir avec le cœur, mais GG. Parce que je vous propose un débat, quelque chose. Et il faut m'apporter de la substantifique moelle, ok?
Ok.
Le guet-apens du jour, pour vous, c'est ça.
Énorme coulée de Léon Marchand. Il est seul au monde, Léon Marchand. Il va conserver son titre mondial. Quel phénomène, quel monstre. C'est énorme, c'est monstrueux ce qu'il est en train de réaliser. Les yeux rivés vers le chrono. Léon Marchand va décrocher le titre mondial. Champion du monde, Léon Marchand. Léon Marchand, record du monde. Léon Marchand bat le record du monde détenu par Michael Phelps. Il explose son record du monde.
Eh oui, c'est le moment de vérité pour Léon Marchand, mais aussi pour les autres nageurs français. À partir d'aujourd'hui, à Chartres, à l'occasion des championnats de France, nous sommes à un peu plus d'un mois des Jeux Olympiques et à l'heure où nous nous parlons, parce que c'est important, aucun nageur français n'est qualifié. C'est la particularité de ce sport. Il n'y a aucun autre moyen de décrocher un billet pour les Jeux. Il faut gagner le jour J aux championnats de France, sinon les JO... C'est à la télé. Notre spécialiste Julien Richard est avec nous en direct de Chartres. On entend les coups de sifflet. Salut Julien.
Salut les GG. Tenez-vous à carreau parce que vous entendez le sifflet. Ça
On a mis les maillots en plus. C'est une semaine. Non mais c'est important de le dire, Julien. Et d'ailleurs, ce sera l'objet de notre débat dans quelques instants. Vous ne connaissez pas la question.
Non.
Mais c'est une semaine terrifiante pour les nageurs.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté qui tout double. La donne, elle est très simple et connue de tous maintenant depuis de longs mois. Il faut terminer à l'une des deux premières places de sa course et réaliser en plus un chrono exigé par la Fédération Française de Natation. Alors c'est un chrono qui est costaud, hein, puisque ça correspond en gros à une entrée en demi-finale des derniers Jeux Olympiques. Il a beau être quadruple médaillé au JO, il a beau avoir vécu ses compétitions coup près à de multiples reprises, c'est jamais un moment agréable pour le capitaine des Bleus, Florent Manedou.
Non, c'est la pire compète, hein, les sélections olympiques, parce qu'on n'a rien à gagner, tout à perdre, donc c'est pas forcément le plus, la compète où il y a le plus de bonnes ondes, mais le job, c'est de se qualifier pour les Jeux qui sont dans 5-6 semaines maintenant, donc voilà, on a tous très hâte de bien nager sur cette semaine.
On a perdu Julien, visiblement. Julien, en direct de la piscine, à Chartres. Non, il n'est pas là. Il va finir, évidemment, son papier, parce qu'il a d'autres choses à nous apporter, et notamment du Florent Manodou. Mais je vais tout de suite vous poser ma question, et j'espère retrouver Julien Richard. Vous l'avez entendu déjà, les nageurs, c'est une particularité incroyable dans ce sport. Ce mode de qualification, est-il ridicule? Oui ou non? Simon Dutin.
Non.
Marie Martineau.
Ah, pétard.
Tu veux que je revienne?
Non.
C'est non pour toi. Marion Bartoli.
Non.
Les bras m'en tombent. Julien Beneteau.
Pas du tout.
Pas du tout?
Ouais.
Ok.
C'est ce qui fait...
C'est ce qui fait quoi?
Son charme.
Non, mais c'est ce qui fait son charme et c'est ce qui fait l'exigence du très haut niveau.
Mais bien sûr.
Les trials américaines en athlétisme, ils n'ont rien inventé. Hein. Carl Lewis, il pouvait être 14 fois champion olympique. S'il ne terminait pas dans les 3 premiers des trials américains, il n'allait pas au JO. Arrive en Australie, là, il y a les championnats d'Australie de natation, c'est la même chose pour se qualifier.
Oui, pour la natation principalement, mais cite-moi un autre sport. Je veux dire, on fait partie du ranking quand on est dans le tennis. Il faut être parmi les deux meilleurs français, mais c'est sur la durée. Là, tu es à... Selon moi, à un mois des Jeux Olympiques, tu ne sais pas encore si tu vas y aller. Imagine la pression déjà, l'attente des Jeux Olympiques. Et en plus, tu ne peux même pas te préparer sereinement parce qu'il y a cette échéance.
Mais si tu te prépares sereinement, après ces Jeux, être capable de performer le jour J. Exactement. Mais comme ça va être pareil, la finale des Jeux Olympiques, ça va être pareil, exactement. C'est de performer le jour J. Donc c'est exactement la même continuité.
Les règles sont très claires, le calendrier est connu. D'être performant aujourd'hui, le jour J, cette semaine-là, t'aide.
Ça te prépare vraiment aux Jeux Olympiques.
Exactement, mais bien sûr.
Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mais avant de vous écouter...
Jean-Christophe, remets-toi en question,
Julien
oui,
Richard.
Mais j'allais te dire, Jean-Christophe, quel sport de haut niveau as-tu fait?
Ah oui, d'accord.
Ah ouais,
d'accord.
Mais quand même.
Moi j'ai un concours en débat, ok? Et okay. Au niveau des débats et des propositions de débat, je suis injouable. Je suis médaille d'or olympique. Julien Richard est avec nous. Julien, on t'a retrouvé, c'est bon. On avait écouté le premier son de Florent Manodou qui s'inquiétait un peu et qui n'aimait pas forcément cette première semaine.
Oui, forcément, il y a aussi pour certains des souvenirs en tête et pas forcément des bons, puisque alors lui, il a déjà nagé ce chrono-là, hein, Florent Manodou, cette saison. Ils sont même plusieurs chez les leaders de la natation française à l'avoir réalisé. Mais il y a toujours ce risque du pépin de dernière minute. Écoutez. Oui.
Je me rappelle de Fred Bousquet en 2015 qui avait fait une intoxication alimentaire la veille et qui n'avait pas participé aux 50 nages libres. Oui. Donc il y a toujours cette petite peur de ça, de tomber malade la veille, de glisser sur le plot, d'avoir une crampe, j'en sais rien, mais un petit truc qui arrive 1% du temps, mais on a quand même ce petit truc dans la tête. J'ai fait le temps toute l'année, donc normalement ça devrait le faire, mais il y a toujours... Enfin, ce sera mieux jeudi soir après mon 50, ouais.
Ouais, et même la star annoncée des Jeux, donc vous l'avez dit, Léon Marchand n'est pas qualifié. Clairement, pour lui, c'est pas un gros obstacle. Évidemment, il nagera 4 épreuves, hein, 200, 404 nages, 200 brasses, 200 papillons. Donc il a 4 chances de qualification, mais l'état d'esprit est un peu différent. Léon Marchand.
On parle de temps ici. En général, quand on se motive avec un temps, ça marche pas très bien. Moi, je préfère arriver en mode je vais essayer de prendre du plaisir que forcément avoir un temps. Mais bon, c'est la réalité des choses. On a des temps à faire, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'on est plus stressé, je pense.
Alors, excepté la période Covid avant les derniers Jeux à Tokyo, c'est quand même une habitude pour la natation française d'avoir ces sélections façon trials, donc à l'américaine, sur une semaine et une seule chance de qualification pour les JO, les championnats du monde. Le directeur technique national de la natation française, Julien Essoulier.
On s'est dit il faut aussi qu'ils s'habituent à ce moment fatidique en fait, parce que le matin des Jeux il faudra être bien. Et même si on n'est pas bien, il faudra se débrouiller pour nager et passer le tour d'après. De se dire que c'est le coup près, c'est aussi la réalité du sport.
Voilà, la petite nouveauté juste pour ces sélections ici, c'est que c'est passé très proche des Jeux. Il ne restera que 5 semaines à l'issue de ces sélections avant les épreuves olympiques, comme le font les Américains ou encore les Australiens des nations majeures de la natation.
Merci beaucoup Julien Richard pour ces précisions. Tu restes avec nous. Non mais vous avez le droit d'être droit dans vos bottes, mais moi j'ai le droit de penser ce que je pense. Personnellement, je trouve que c'est pas forcément très juste. Et surtout, si vous partez là-dessus, autant faire ça pour tous les sports.
Autant
faire ça pour tous les sports.
Quand tu es dans le de la natation,
au football, ça va être compliqué.
Ouais, Exactement.
Oui, vas-y Marie.
Je dis tant qu'il y a une densité telle que celle qu'on peut avoir dans la natation, t'es obligé d'avoir des critères et qu'ils soient très restrictifs, même si on l'a déjà vu, ça a été compliqué. Alain Bernard était champion olympique en titre sortant de Pékin. Il n'a pas été qualif pour Londres parce que ça s'était pas bien passé aux France. La forme du moment fait partie des éléments de qualification hyper importants.
Mais c'est même plus la forme du moment là. C'est la forme de l'instant T. Non mais c'est même plus. C'est même extrapolé.
Mais si t'es pas capable de te concentrer, de nager correctement sur les championnats de France, comment tu vas le faire aux Jeux Olympiques, dans ton propre pays en plus avec la ferveur populaire et tout. Enfin, c'est juste.
Dans quasiment tous les autres sports, c'est une sélection. Il y a un ranking, ok. Puis après, c'est une sélection de l'équipe de France, donc de la fédération. Ça peut se passer en judo, par exemple. Imaginez que tout se joue sur une compétition. On aurait Teddy Riner, on aurait forcément Romain Dicot.
Et regarde les problèmes que ça pose. On en parlait hier avec les contestations pour la sélection de l'équipe de France d'escrime. Pourquoi en escrime, ils n'organisent pas un tournoi entre les meilleurs tireurs français avant les JO? Bon, ben voilà, les deux finalistes, ils vont au jeu. Ça pousse quand même à l'excellence. Ça pousse à être prêt, justement, dans une unité de temps qui est. Voilà, on est à 40 jours des Jeux, mais bon, voilà, si tu es prêt demain, tu seras prêt dans un mois. C'est l'exigence du très 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 haut niveau.
Et c'est ce qu'a fait l'escrime et le judo sont entre guillemets des mauvais exemples parce qu'ils sont ces deux sports qui sont pourvoyeurs de médailles sur chaque Olympiade. Mais la natation française, elle est remontée au niveau international grâce à quoi ? Grâce au minima qu'avait rehaussé l'ancien DTN, je crois que c'était Claude Fauquet à l'époque, pour de nouveau.
Dans les années 2000, ouais.
Dans les années 2000, pour
de nouveau être compétitif.
Oui. Exactement. Pour dire aux nageurs français, on n'existe pas sur la scène internationale. Il va falloir qu'on s'y mette. Donc voici les minima qu'il va falloir faire. Et en athlétisme, peut-être qu'il y a certaines choses en France à prendre de la natation française.
Ok, je vais voir Julien. Juste, je suis le seul à penser ça que c'est quand même un mode de qualification hyper particulier ou non? Tous les nageurs sont très ok avec ça.
Ils sont OK avec ça parce que c'est dans les habitudes, c'est ancré depuis maintenant pas mal d'années. Ils connaissent ces critères aussi, sont très précis. Et ils les connaissent avant de commencer la saison, voire même depuis les Jeux de Tokyo, ils savent que ça se passera comme ça. Alors les chronos, ils les ont juste là depuis une grosse année maintenant. Donc c'est ancré et ça fait partie de la planification de la saison. C'est-à-dire qu'ils vont organiser toute leur saison par rapport à ça.
Oui, évidemment, une fois que tu connais les règles du jeu, tu t'organises pour ça.
Il faut savoir nager sans gilet.
Julien va me dire un truc vrai quand même.
Non, mais ce qui est vrai, j'y sais, c'est que tu n'es pas à l'abri d'un pépin ou d'un centième qui tourne mal. C'est arrivé aussi à Roxana Maracineanu, qui était la première championne du monde de l'histoire de la natation française et qui ne s'était pas qualifiée derrière pour des championnats du monde pour un centième. Donc c'est la brutalité d'un chrono, mais c'est aussi ce qui permet, je pense, vous parlez d'escrime, de judo, c'est les sports où il y a de la confrontation directe du combat. Là, c'est des chronos. C'est bête et méchant, un chrono, c'est.
Il y a des chronos, mais c'est pas parce que tu fais le chrono que tu vas au JO. Il faut quand même battre les autres.
Ça dépend où est-ce que tu mets les chronos.
Mais il faut aussi que tu battes les autres. Il faut que tu sois dans les deux premiers quand même.
Mais puis surtout, il faut quand même se rendre compte que les Jeux Olympiques de Paris, c'est quand même le rendez-vous d'une vie là pour tous les athlètes français qui vont pouvoir avoir la chance de représenter la France aux JO de Paris. Donc s'ils sont pas capables d'arriver le jour J dans une piscine en France, en championnat de France et de faire les temps, comment tu veux que le jour J aux JO de Paris, avec une pression multipliée par 1 million, ils puissent les faire? Bien sûr qu'ils vont être prêts à les faire au championnat de France. Au contraire, ce sera une très belle répétition pour eux, pour se mettre justement dans le système de gérer toute la nervosité, tout le stress et tout ce qu'un sportif doit gérer au quotidien.
Tu sais, pour aller pas dans ton sens, mais pour peut-être te donner un argument qui pourrait t'aider à le concevoir, je pense qu'il n'y aura pas d'écart, il n'y aura pas de problème. Tous les gens qu'on attend pour les Jeux, ils vont passer les championnats de France haut la main. Et si ce n'était pas le cas, ils auraient réfléchi à changer cette genre de
cas. J'espère que tu as vu juste. En tout cas, voilà ce que je fais avec mon débat caché.
Non, il était intéressant.
Je le prends et je le déchire. Merci Julien Richard, on va suivre ça avec toi toute la semaine. Léon Marchand, juste en deux mots, c'est demain que ça commence.
Excuse-moi, je n'ai pas entendu, il y avait énormément de bruit.
Léon Marchand, c'est demain que ça commence, rapidement.
Oui, exactement. Léon Marchand, 400 mètres 4 nages, la première des 4 courses sont donc ici dans ces championnats de France à Chartres.
Merci beaucoup Julien, on te retrouve tout au long de la semaine, comme je le disais, sur rmcsport.fr pour avoir toutes les dernières informations. Bon, j'espère que vous serez meilleurs sur le zapping de l'Euro dans quelques instants. Non, c'est une blague. A tout de suite sur RMC, on parle de l'Euro 2024, évidemment.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Avec Simon Dutin, Julien Beneteau, Marion Bartoli, Marie Martineau. Je suis encore en train de bougonner là pendant la réclame sur le débat caché. Je vous ai pas sorti un argument. Non, je suis pas content. Parce que non mais j'avais ça, pardon, on va passer à l'euro dans quelques instants, mais l'athlétisme. Dire, heureusement que Kevin Mayer a eu plusieurs chances pour se qualifier. Sinon, on n'aurait pas quand même un double champion du monde au JO.
Ah, mais est-ce que tu crois vraiment que Kevin Mayer va performer aux Jeux Olympiques?
Ah bah oui.
On en reparlera.
Mais bah oui, j'y crois.
Bah super, mais c'est bien.
Attendez. Je veux dire, Renaud Lavillenie, heureusement qu'il a plusieurs chances pour aller se qualifier.
On parle de haute performance, on parle de très très haute.
Mais me dites pas ça avec le décathlon, c'est une haute performance. Enfin, je veux dire, il a eu du temps pour se préparer. Là, il joue tout sur un jour. Je trouve ça.
Mais c'est pas comme si tu n'avais pas d'autres compétitions avant pendant l'année pour être prêt aussi.
Non, je passerai tant que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Tu es en train de radoter là. À autre chose.
Tu es en train de radoter. Je commence à m'inquiéter.
Allez, le zapping de l'euro.
RMC, le zapping de l'euro.
Non, parce que imaginez, au 110 mètres.
Non, continue.
Alors, des informations à vous donner.
C'est un spécial euro.
Bah, bien sûr.
Ah, oh, c'est.
À vous de me dire. Bah oui, c'est beau.
Ah, c'est fort.
À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. OK, les copains. La première information à vous donner, c'est la frayeur de l'Italie pour débuter l'euro. On s'en fout, on s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas. Marie Martineau, celui-là.
Non.
Tu passes ? T'as le droit de passer.
Je passe.
Tu passes, très bien. Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
Julien Beneteau.
Ah, je m'en fous.
Très bien. Alors face
mais non, mais le but au bout de 20 secondes, c'était beau. Là,
face à l'une des plus faibles équipes du tournoi, hein, 66e au classement FIFA, l'Albanie, eh bien, le tenant du titre, n'a pas vraiment brillé. Victoire 2-1, c'était hier soir à Dortmund. Un match marqué, tu l'as dit Marion, par une surprise avec l'ouverture du score albanaise dès la 23e seconde, ce qui constitue le but le plus rapide de l'histoire de la compétition. Federico Chiesa, après la rencontre, lui, il est tout simplement heureux.
Je suis tellement heureux pour l'équipe. L'Albanie a été un adversaire coriace. Ils ont montré beaucoup de qualités. Pour la suite, on doit montrer qu'on est capable de plier les matchs plus rapidement. Là, l'Albanie aurait pu égaliser dans les dernières minutes et ça aurait été malheureux pour nous parce qu'on méritait de gagner. Mais dans ce tournoi, avec toutes ces bonnes équipes, on peut vite être puni. On doit concrétiser nos occasions. Toute l'équipe le sait. On doit s'améliorer sur ça.
Ok, un mot rapide. C'est vrai que c'est une piqûre de rappel pour toutes les équipes de l'Euro qui pensent affronter un adversaire moins faible, peut-être. Enfin, plus faible, j'ai envie de dire. Simon.
Ça sentait le match piège. Bon, c'est une sélection d'Italie qui a un peu moins de flair, de talent, de créativité que certaines des équipes précédentes. Beaucoup de joueurs albanais qui jouent en Serie A, qui connaissent les mecs contre qui ils jouaient. Cette ouverture du score, je pense qu'elle a plutôt aidé les Italiens parce qu'ils ont été obligés de réagir. Voilà, ils ont fait le job et je pense que ça va aller un peu à l'image de l'Argentine en Coupe du Monde. Ils avaient perdu le premier match. Je pense que ça peut les aider pour là.
Ok, on s'inquiète pas du tout, Marion. Rapidement, tu veux dire un autre mot ou pas?
Non, moi ça m'a fait assez marrer de voir un but au bout de 22 secondes. Après, il y avait énormément d'animation en espace de 20 minutes, il y avait 3 buts marqués. Ça s'est beaucoup calmé ensuite, mais c'est une piqûre rapide pour toutes les équipes, justement, d'arriver à tout de suite être prêt dès le début de la compétition, pas prendre d'autres équipes de haut en se disant c'est bon, on a de la marge. Donc c'est bien aussi pour l'équipe de France de voir ce genre de match avant de rentrer dans la compétition pour eux, pour être prêt psychologiquement.
Allez, deuxième information dans le zapping des juges à vous donner, dans le zapping spécial Euro, c'est l'Espagne qui surclasse la Croatie. On s'en fout, on s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas. Marie Martineau.
Je m'en fous pas.
Ok, Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
Julien Beneteau.
Je m'en fous.
Pourquoi?
Parce que en fait, ça sert à rien ces phases de poule à 24 équipes, les meilleurs troisièmes qui se qualifient. On est en huitième de finale. Ce serait
des. Et si tu vois les formes de chacun.
La Croatie. Parce que là, je m'en foutrais pas si la Croatie avait pris une branlée, elle serait quasiment éliminée. Je m'en foutrais pas si l'Italie était passée pas loin d'une contre-performance qu'on avait bannie et pouvait être éliminée. Là, on peut louper un match, on est quand même qualifié. C'est l'école des fans. Donc c'est chiant.
Je m'attendais pas à ce coup de gueule. Hein.
Mais c'est chiant. Comment dire? De faire ces poules là. Allez, les deux premiers qualifiés, les quarts de finale, on resserre. Ouais, là, c'est.
Tu veux partir direct en finale, toi?
Non, mais ça va en euro, on rajoute des équipes qui se.
Trois équipes sur quatre qualifiées.
Et les deux ou trois.
Attends, c'est les meilleurs troisièmes. Attends, c'est pas tout le troisième.
Non, mais oui, il y en aura que deux qui seront laissés sur le carreau. Non, ça va, c'est pour ça que.
La Rora, ils ont quand même envoyé un message hier quand tu les vois jouer.
Oui, ils le font. À part la grande Espagne, ça fait souvent qu'ils envoient ça en match de poule. On les voit, c'est super, c'est fantastique. Et en quart ou en huitième ou en quart, il n'y a plus personne.
Okay. Moi, il m'a convaincu, moi je m'en fous aussi.
Okay. De toute façon, on n'a plus le temps d'en parler, mais bon. Moi j'ai bien aimé ce coup de gueule signé Julien Benneteau, ouais. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement, pas du tout. Mais bravo, je rappelle juste que l'Espagne a donc gagné 3-0 face à.
Sans le groupe de la mort. Hein,
face à la Croatie. Et le prochain match, c'est donc Espagne-Italie, c'est jeudi et à 21h.
Avec un Fabian Ruiz exceptionnel.
Et non, mais on ne va pas s'en foutre, mais le perdant n'aura aucune conséquence, parce qu'ils ont gagné tous les deux le premier match.
Ok, on va se qualifier.
Carvajal a été pas mal non plus.
Très bien. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Angleterre-Serbie. Le premier match à haut risque de l'euro, on s'en fout pas, Simon Dutin.
Bah, je m'en fous du coup.
Ok. Il est vexé. Marie Martineau.
Je sais plus quoi dire, je m'en fous.
Ok, Marion Bartoli.
Non, moi j'aime bien le jeu de l'Angleterre. Allez, je prends.
Et moi je m'en fous pas.
C'est pas ça l'angle, il va vous parler et de la voilà. Sécurité des hooligans serbes et anglais.
Oui,
voilà,
oui,
ça,
oui, oui,
et
oui.
Non, mais moi, justement, je m'en fous pas parce que j'ai pas envie que ça dégénère.
Ok, bah, on retrouve Aurélien Tersin justement en Allemagne autour de cette rencontre. Salut Aurélien.
Salut les GG.
C'est
Aurélien.
Vrai qu'il y a Salut. Un match très intéressant avec le premier match pour cette équipe anglaise qui est présentée par les bookmakers comme la grande favorite pour cette Euro. Mais il y a aussi la présence redoutée de hooligans serbes. Et donc là, c'est un match, je le disais, classé à haut risque.
Ouais, exactement. Alors hier et pour l'instant ce matin, il n'y a pas trop de difficultés. On voit plus d'anglais parce qu'on attend 40 000 supporters des Trois Lions ici dans la région de la Roure. 10 000 Serbes simplement entre guillemets. Et le problème, c'est ça concernerait 500 hooligans venus de Serbie qu'on n'arrive pas bien à contrôler. Les autorités allemandes sont un petit peu méfiantes évidemment à l'arrivée aux aéroports et dans les gares. On ne sait pas où ils sont, comment ils vont se déplacer. Alors pour essayer de les contraindre, il y a évidemment des forces de police partout autour de Gelsenkirchen, à Essen, à Düsseldorf, les principales gares et aéroports de la région. On va aussi limiter la consommation d'alcool dans le centre-ville de Gelsenkirchen, qui est la ville de la Veltins Arena, le club de Schalke 04. La bière est limitée également à 2,5 degrés d'alcool au stade. 2 pintes par personne maximum. Il va falloir faire attention, surtout donc aux Serbes, je te le disais, JC, puisque les 1600 hooligans anglais, notamment eux, ont été repérés et empêchés de se déplacer normalement, sont restés eux en Angleterre.
Bon, on espère que tout se passera bien. Le match, c'est ce soir à 21h, Serbie-Angleterre, avec au commentaire Aurélien Tersin. Merci beaucoup pour ces dernières informations. Également Pologne-Pays-Bas à 15h et Slovanie-Danemark. D'ailleurs, on en parle dans quelques instants. J'ai dit quoi ?
Slovanie.
J'ai dit Slovanie.
Un mélange de Slovénie et de Slovaquie. C'est un nouveau pays.
C'est un morphine.
Ouais, c'est très voilà. Fort en géographie.
Je suis en train de redessiner l'euro.
Attention à la Slovanie. Hein.
Ah oui, mais attendez. Si, je suis animateur des grandes gueules du sport, mais je suis aussi un fin homme politique. Okay,
c'est vrai que là, on comprend mieux pourquoi t'es pas d'accord avec le tout sur une course.
D'accord.
On voit que sous pression, ça coûte plus de balles, tu vois. Craque. Et oui, sous pression, ça craque. On n'arrive plus à dire dans un pays.
Ton tacle, les deux pieds décollés à la Eric Dimeco.
Bah non.
Merci les GG.
Tu l'as pris quand même.
Merci Marion, Marie, salut. Julien, Simon. À bientôt dans les grandes gueules du sport. On se retrouve dans quelques instants dans les paris RMC pour évidemment l'Euro 2024. Allez, à tout de suite.